Culture Club, une émission présentée par Victor Loupan.
Bonjour à tous et pardon pour cette voix enrouée, c'est rien par rapport à la voix que j'avais plus du tout ce week-end, donc je rends grâce à Dieu de m'avoir donné un petit peu de souffle ce matin pour parler d'une exposition importante, même une des plus importantes qu'on puisse voir aujourd'hui à Paris, mais... À Paris, cette année, nous sommes vraiment gâtés pour les expositions. Nous allons parler aujourd'hui de Bacon, de Francis Bacon, en toutes lettres. Donc, ce n'est pas juste une rétrospective de Francis Bacon, mais c'est une exposition thématique sur les lectures, disons, de ce qu'a inspiré devant sa passée de peinture au grand, grand artiste Francis Bacon qui a marqué le XXe siècle, et pas seulement le XXe siècle anglais. Voilà, nous allons en parler avec Stéphane Covio. Bonjour Stéphane.
Bonjour Victor, bonjour à tous.
Voilà Stéphane donc, qui s'occupe de cette très belle association Venez et Voyez qui organise donc des visites commentées avec intelligence et en train. Et puis aussi Guillaume Sébastien, bonjour Guillaume.
Bonjour Victor.
Voilà, qui dirige la galerie Guillaume que nous aimons beaucoup. Et voilà, donc on va parler tout de suite de Francis Bacon en toutes lettres. Alors je vais, pour ne pas que vous deviez vous répéter, enfin, et mâcher et remâcher cette motivation de l'exposition, il faut dire que c'est inspiré donc des lectures de Francis Bacon, donc notamment de Eschyle, Grèce antique, de Nietzsche, donc fameux philosophe romantique allemand, de Bataille, Georges Bataille, qui est tombé un petit peu en désuétude aujourd'hui, mais qui est un écrivain qui a beaucoup compté, notamment dans l'entre-deux-guerres et après-guerre, avec des textes érotiques assez débridés et un style extraordinaire. Il y a aussi Léris, bien sûr. Il y a Joseph Conrad, grand écrivain anglais d'origine polonaise. Il y a T.S. Eliot, le poète, et la poésie britannique anglaise est extrêmement vivante, contrairement à la poésie française. Donc tout ça, ça a inspiré une exposition à Francis Bacon, une série de tableaux donc, que nous voyons. Beaucoup de tableaux de très grande taille. J'étais particulièrement impressionné par la taille des tableaux. Est-ce que ça vous a étonné, Guillaume Sébastien ?
Oui, non, parce que Bacon a fait de très grands tableaux, notamment des triptyques. Il y en a, je crois, 12 qui sont présentés dans l'exposition. Alors pour revenir sur le titre de l'exposition en toutes lettres, malheureusement, c'est pour le commun des mortels dont je suis. On passe un petit peu à côté du sujet.
Il y a des lectures, des salles.
Alors
des
oui,
lectures,
c'est ça. Donc la mise, la scénographie de l'exposition, la présentation de l'exposition est, à mon avis, un peu ratée justement pour rentrer dans le sujet, puisque les tableaux sont exposés, ils sont très bien exposés, et puis sont parsemés ici et là dans l'exposition des salles qui sont des petites salles qui sont vides, où il n'y a pas de tableaux ou très peu de choses, et où par contre on entend des voix d'acteurs qui lisent les textes de ces 6 auteurs dont vous avez rappelé le nom à l'instant. Donc moi, je suis passé un petit... Enfin, j'ai pas trouvé ça très convaincant. Par contre, j'ai été très intéressé de voir que sont montrées au Centre Pompidou beaucoup d'œuvres qui sont les œuvres des 20 dernières années de la vie de Bacon, c'est-à-dire entre 1971 et sa mort en 1992, qui sont ces années où Bacon est vraiment une star. Il a été consacré par le musée d'art moderne de New York comme étant vraiment l'artiste le plus important du XXe siècle.
De son vivant, oui, c'était...
Oui, et où les prix de ses tableaux montent en flèche.
Pourquoi j'ai parlé de la taille ? Parce que je connaissais l'œuvre de Bacon et je me suis dit, oh, c'est, je connais, quoi. Et j'habitais à Londres à une époque, donc j'avais vu des plus petites expositions comme ça dans une galerie et tout ça. Et puis j'ai des livres avec des reproductions de Bacon et je me suis dit, en voyant les tableaux là, que ça n'a rien à voir. Je veux dire, on ne peut pas apprécier Bacon en reproduction. Du coup, j'ai même pas acheté le catalogue parce que je me suis dit, c'est pas possible. Quand on les voit comme ça, la taille fait tellement la force qui se dégage de la dimension est vraiment extrêmement importante. C'est pour ça que j'ai parlé de la taille de cette triptyque vu ensemble. Votre première impression, Stéphane Covio ?
Ma première impression, excellente. Je suis absolument captivé par cette exposition. que j'ai déjà visité 3 fois, 4 fois. Et je continue à... Ma réflexion est en pleine effervescence suite à ce que j'ai vu, suite à ce que je conserve dans l'œil, dans le cœur. Je trouve ça passionnant. Le rapport au texte, au livre de sa bibliothèque qui sont évoqués dans l'exposition, pour moi, est secondaire. Ce qui est vraiment primordial, c'est le fait que de très belles œuvres, très grandes œuvres soient exposées dans de bonnes conditions. On respire dans cette exposition, on a de la place, même si c'est très fréquenté. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de très fort à vivre et à découvrir dans cette exposition.
Ce qui m'a un peu étonné, quand ils disent, à un moment donné, ils disent que Bacon était un grand lecteur et sa bibliothèque comptait 1000 livres.
Oui.
1000 livres, c'est pas une grosse bibliothèque, excusez-moi. Moi, je dois pas être loin. Hein.
Alors, je crois qu'il est, il est précisé un peu plus loin qu'il était plutôt un relecteur de livres qu'un lecteur.
Oui, et moi, c'était pas comme vous, Guillaume, parce que, à part l'Iris que j'ai lu, Eschyle, j'ai étudié Eschyle, bon, c'est ça, mais à part l'Iris que j'ai lu moi, j'avais lu les autres, quoi, je connaissais, je voyais d'où ça venait, quoi, tous ces trucs, notamment de Georges Bataille, tout le caractère, disons, érotique des œuvres qui est présentée. Alors, c'est pas érotique et explicite, quoi, mais tout le côté un peu dénudé, etc., des hommes qu'il peint, est inspiré, bien sûr, de Georges Bataille, et y compris, il y a une scène qui est un peu... Il y a un tableau qui représente un peu une sorte de tauromachie, là. Et ça vient de l'histoire de l'œil de bataille. Enfin, c'est une.
En fait,
mais qu'est-ce qui est. Est-ce que si vous disiez quelque chose, Stéphane, pour motiver. Non.
Alors, justement. Beaucoup de gens...
Est-ce que c'est beau ?
Alors, je ne vais pas répondre aussi
c'est
simplement
la,
que ça à votre question.
C'est la question qui tue.
Vous savez qu'il ne faut jamais répondre aux questions des journalistes. Beaucoup de gens ont peur d'aller voir Bacon. Beaucoup de gens ont vu Bacon de loin, ont vu des représentations de Bacon. Il y a des corps morcelés, déformés, il y a l'utilisation du rouge, du rose qui évoque le sang. Il y a quelque chose d'effrayant dans la peinture de Bacon, et tel que le public la connaît de loin. Bacon, c'est le premier artiste que j'ai découvert lors d'une exposition. En Angleterre, j'avais 12 ans. À Londres. Je me souviens très bien de ce que j'avais vu, notamment j'avais été frappé par ces images du pape Innocent X avec ses rouges et cet aspect terrifiant. Et c'est ça qui m'était resté dans l'œil. Et puis je l'ai redécouvert il y a quelques années quand le musée Mayol a fait une exposition. Et là, ma vision a totalement changé.
Ça c'est vrai.
Pourquoi ? Parce que je l'ai regardé de près. Et j'ai vu de près de la douceur, de la délicatesse, un art de déplacer le pinceau avec énormément de sensibilité, une manière de superposer les couleurs. Et ça m'a vraiment beaucoup plu plastiquement parlant. Et aujourd'hui, je continue à être extrêmement séduit par la peinture de Bacon. Et l'un des ressorts particuliers de Bacon, c'est cette association entre une figuration qui a sa dimension effrayante, en tout cas souffrante, douloureuse, et quelque chose de très beau picturalement parlant. On pourra rentrer dans le détail de certaines œuvres, mais quand on voit l'exposition, c'est assez remarquable, on est sur 20 ans de production artistique et il y a une très grande continuité. C'est-à-dire qu'il a un mode de travail que l'on repère assez facilement et que l'on retrouve d'année en année et qui est une espèce de structure dans laquelle il évolue sur ces années.
Guillaume, vous, quand vous pensez à Bacon, est-ce que vous pensez au mot douceur ou vous pensez plutôt au mot violence ?
Je suis très intéressé par ce que dit Stéphane, qui regarde les tableaux bien mieux que moi, de façon plus rapprochée. C'est pas du tout l'impression que j'ai eue en regardant ces tableaux, d'où effectivement se dégage une très grande violence. Et je trouve... quel mot utiliser ? Oui, un certain vide, quand même. Il faut bien le dire. Déjà, d'un point de vue pictural, les tableaux, il y a ce fond. Et puis, il y a souvent un personnage, parfois deux personnages, et très peu d'attributs autour. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est d'un monde assez enfermé. Le monde de Bacon est un monde, effectivement, de souffrance, un monde assez enfermé. Un monde qui se regarde aussi, un monde plutôt nombriliste. C'est vraiment l'impression que j'ai eue en voyant ces tableaux. Et puis, effectivement, un monde torturé. Bacon était quelqu'un de torturé. Alors, il faut peut-être parler de sa vie aussi avant de parler de son œuvre. Hein. Il est né en 1909 à Dublin, de parents britanniques. Son père était ancien militaire britannique, très autoritaire, avec son fils. Bacon a sans doute beaucoup souffert de ça dans son enfance. Son père a découvert son homosexualité très tôt. Et à l'âge de 15 ans, il a dit à son fils de partir. Et là, il est allé à Londres.
L'homosexualité de Francis Bacon.
Oui, de Francis Bacon.
Qui est très présente aussi dans cette exposition. C'est surtout des hommes.
Voilà, donc c'est vrai que la sexualité, on pourrait même dire l'homosexualité, est très présente dans l'œuvre de Bacon. D'ailleurs, il ne s'en cachait pas. Il revendiquait tout à fait le côté très, très sexuel, très cru de son travail. Donc, moi, c'est ça que j'ai ressenti. C'est une œuvre quand même très torturée. Les visages sont déformés, les corps sont déformés, ils sont flous. Donc, la vie torturée de quelqu'un qu'il était. Et on a cette... voilà. Alors après, l'œuvre de Bacon est beaucoup plus compliquée que ce qu'elle ne paraît au premier regard. C'est pour ça qu'il faut... D'ailleurs, j'étais très intéressé par le film, les interviews, les entretiens avec Bacon.
On va en parler après. Mais si vous voyez ce que vous dites de son côté fermé, enfermé, torturé, etc., c'est lié aux lectures. Hein. Vous ne dites pas de Nietzsche, de Bataille, etc. C'est que la vie est une souffrance, la vie est une horreur, elle se termine par la mort, elle se termine par le néant, elle est maladie, elle est souffrance, elle est amour déçu, enfin, tout ça, quoi, enfin. Et ça se retrouve, c'est lié aux lectures. Hein.
Oui, non, c'est pas lié aux lectures, c'est lié à la vie. Et c'est intéressant que ce soit ces lectures-là qui l'ont particulièrement captivé et qui génèrent en lui ce qu'il appelle des images. En tout cas, en fait, pour lui, la peinture, ce n'est pas une illustration de la lecture. C'est quelque chose qui vient féconder son imagination. Et là, il crée. La vie est tout ce que vous avez dit. Mais la vie est, pour lui, intensité de vie. Et c'est ça qui est présent dans sa peinture. C'est-à-dire cette intensité de vie, malgré... cette vie qui est souffrance. On lui a demandé pourquoi il y a de la morbidité dans votre œuvre, pourquoi il y a de la violence. Il dit, je ne cherche pas spécialement à en mettre. Mais pour moi, la vie, je la vois avec la mortalité, je la vois avec la violence. Et donc, la peinture, c'est un reflet, c'est une réflexion, dit-il, avec son accent anglais, parce qu'il parle bien français, très doux, une réflexion de la vie. Et je pense qu'il voulait dire un reflet, avec le mot réflexion. Et en même temps, ça joue certainement sur le fait de réfléchir aussi. Et moi, je vais... évoquer par exemple une œuvre que j'ai dans l'esprit et dans le cœur depuis que j'ai visité l'exposition et que je vais retourner voir. Elle est présente deux fois dans l'exposition, c'est deux fois le centre d'un triptyque. Et une première fois, on voit donc un grand rectangle vertical, qui est ce grand tableau de Bacon, avec un dais rouge, d'un rouge profond, d'un rouge carmin, absolument somptueux.
Je vois de quoi vous
parlez, un grand qui traverse verticalement le tableau. Et ce dais rouge revient vers nous dans le bas de l'image comme un tapis. Royal. Et puis, sur ce tapis, il y a une espèce d'estrade sobrement dessinée, quelques lignes. Et sur cette estrade, sur ce socle, sur ce support, est installé quelque chose qui ressemble à une figure humaine. Une sorte de corps humain, mais partiel. On voit les jambes, on voit le bassin, on voit un buste. Et puis, en étant bien attentif, on comprend qu'il y a une espèce de colonne vertébrale qui descend, qui redescend vers le centre de ce corps, qui est occupé par un ovale qui ressemble à une coupe ou à un bassin. Et la tête disparaît, ou en tout cas est plus ou moins située là-dedans. Et une image qui renvoie donc à la chair, aux os, au sang, à une vision souffrante de l'homme. Et cette image, elle est là, exaucée, elle est là en hauteur, magnifiée par ce dais derrière qui est rouge sang, un rouge somptueux. Je ne peux pas m'empêcher, moi, quand je vois ça, de penser à l'iconographie chrétienne. Pour moi, l'iconographie chrétienne est extrêmement présente dans l'œuvre de Bacon.
Ah ben, il est très nourri, bien sûr.
Déjà, la notion de triptyque.
Bien sûr.
Cette humanité magnifiée, souffrante, il y a quelque chose qui fait penser à la croix. Pour lui, la crucifixion est une image clé. La première œuvre qu'il considère comme une œuvre montrable dans son travail, qui date de 1944, s'intitule « Figure au pied de la crucifixion ».
Il y a tout un art chrétien espagnol, notamment, qui est très sanguinolent. Très...
En tout cas, et il a cette humanité qu'il nous montre là, c'est une humanité blessée, mortelle, qui a des points communs avec l'animal dans ce qu'elle a de souffrant, de notions. Avec Bataille, on évoque la question de la viande aussi, des choses comme ça. Et elle est magnifiée en même temps. C'est cette humanité blessée est magnifiée. Et moi, pour moi, il y a quelque chose de comme une contradiction là, avec cette intensité. Pour moi, cette image est d'une intensité prodigieuse, et en même temps cette dureté qui est présente là, exposée à nos yeux.
Je voudrais qu'on dise quelques mots justement de cette dernière vidéo qui m'a passionné aussi. J'ai regardé à la fin de l'exposition une vidéo des entretiens avec Francis Bacon où il se revendique. Alors c'est ça que je voudrais avoir votre opinion de spécialiste là-dessus. Où il se revendique réaliste. Hein. Et il dit « je suis un réaliste ». Alors évidemment, l'idée qu'on se fait du réalisme, ce n'est pas du tout Francis Bacon. Enfin, l'idée qu'on se fait du réalisme, c'est plutôt Gainsborough, je ne sais pas quoi. Enfin. Mais là, si vous voulez, il dit « je réalise, je m'intéresse qu'à la réalité, je veux représenter la réalité, etc. » Et puis il dit à un moment donné, il dit « oui, mais le réalisme a été poussé tellement loin par Serge Eisenstein, le fameux donc, cinéaste soviétique, que moi, j'essaie de trouver d'autres voies, etc., etc., qui sont autres que le côté photographique ou de la réalité, de reproduction de la réalité. » Qu'est-ce que ça a ? Est-ce que c'est une pause qui prend Bacon ou est-ce que c'est vraiment une peinture réaliste ?
Bien entendu, il faut prendre à 100% ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il le dit souvent. Dans de très nombreuses interviews, il revient sur le mot de réalisme, ce qui l'intéresse, c'est la réalité. Mais il ne va pas capturer la réalité, comme il le dit, en utilisant les moyens que la photographie ou le cinéma offrent quotidiennement, c'est-à-dire une saisie des apparences. Il cherche à exprimer quelque chose, à capturer quelque chose du réel qui échappe aux apparences et qui les transcende. Quand vous voyez, par exemple, les portraits, il y a des petits portraits. Il y a des portraits de Michel Léris, il y a des autoportraits, il y a des portraits d'autres personnes qui sont présentes. Mais regardez les portraits de Michel Léris. Si vous connaissez Michel Léris, si vous avez déjà vu des photos de Michel Léris, vous reconnaissez Michel Léris.
C'est lui, oui.
Mais très, très présent, c'est évident. Et pourtant, ce n'est pas une photographie. C'est beaucoup plus intéressant qu'une photographie. C'est de la peinture, c'est vivant. Quand on regarde de près, quand on voit comment c'est fait.
C'est un portrait métaphysique.
Je ne sais pas. Alors, je vais vous dire, Bacon est très prudent quand on avance sur ce terrain-là. Il dit, enfin, je ne me souviens plus ce qu'il dit, mais j'ai toujours le portrait en face des yeux en l'imaginant. C'est plastiquement parlant très intéressant. Il y a des déformations. Il tord la réalité pour parvenir à la réalité, en fait. Il travaille avec des courbes, des contre-courbes, beaucoup de courbes d'ailleurs, c'est remarquable. Hein. La plupart de ses tableaux, comme les portraits, c'est un fond totalement uni, assez peu en matière, et la figure humaine, quand je dis figure humaine, en l'occurrence là, c'est visage, mais dans les autres tableaux, c'est le personnage tout entier, est elle-même constituée de courbes, de virgules, de superpositions. Et puis, chose étonnante, d'impressions. Quand on regarde de près, on voit aussi des stries qui sont posées sur différentes parties du visage. Et on comprend que ce sont des tamponnages de tissus mouillés par la peinture qu'il vient appliquer par-dessus. Il voile certaines parties, il en souligne d'autres. Je trouve que, plastiquement parlant, je trouve ça magnifique. Ce sont des œuvres très fortes qui tiennent vraiment très très bien. Enfin, c'est beau. Vous disiez, est-ce que c'est beau ? Ben oui, là, moi, je dis, c'est beau.
J'ajoute quelque chose à propos des portraits qui figurent, je crois, au début d'exposition.
Oui, puisque début.
Michel Léris, Jacques Dupin, et puis l'autoportrait. Il faut rappeler que l'un des grands artistes qui a influencé Bacon est Picasso. Sa vocation de peintre, il raconte qu'il la doit à une exposition de Picasso qu'il a vue à Paris chez Paul Rosenberg. Donc, on imagine
dans les années 20, vous imaginez, voilà, c'est il y a longtemps.
Ses portraits, moi, m'ont fait penser à ces portraits cubistes de Picasso, celui de son marchand Canveller et d'autres personnages que Picasso a peint.
Parce que dans le tableau que Stéphane vient de décrire, avec beaucoup de conviction et de talent, quand on regarde, il y a par exemple, c'est vrai, vous avez raison, ça vient de Picasso, il y a des parties de la tête qui manquent, enfin, c'est pas une... c'est vraiment une interprétation très forte de la figure humaine, enfin, c'est...
Les choses intéressantes, quand il peint, Il peint toujours sans modèle. Il ne peint pas en présence de la personne dont il fait le portrait. En général, c'est des gens qu'il connaît, c'est des gens d'ailleurs dont il est proche. Il peint de mémoire et avec des photos.
Ouais,
donc il ne veut pas, il dit que ça le perturbe d'avoir des gens présents et d'avoir un modèle sous les yeux.
Oui, parce que les gens vivants dégagent une psychologie, dégagent une influence, ils ont des yeux qui expriment quelque chose. C'est vrai. Il n'a pas tout à fait tort. Hein.
On évoquait tout à l'heure des lectures. Je veux dire, pendant l'été, sachant qu'il y avait cette exposition et que dans les lectures de Bacon, il y avait la naissance de la tragédie de Nietzsche,
ouais.
Eh bien, j'ai enfin lu avec beaucoup d'intérêt ce petit livre de Nietzsche, qui n'est pas si long et qui est à la portée de beaucoup de lecteurs, je vais vous le dire.
Nietzsche était un très jeune homme quand il a écrit ça, hein, c'est son premier livre.
C'est un de ses premiers livres et c'est absolument passionnant. Il y développe des concepts clés pour toute personne qui s'intéresse à l'art, la notion d'apollinien et la notion de dionysiaque. L'apollinien étant ce qui va vers les belles apparences, la belle forme, l'ordre, la mesure, l'individu, la séparation les uns des autres... Et puis le dionysiaque, ce qu'il y ait davantage...
L'apollinien, c'est l'ordre. Hein.
Voilà, exactement. Le dionysiaque, ce qui est davantage du côté des passions, de la fusion entre les personnes, de la sexualité, bien sûr, de l'instinct, vous voyez. Et il y a une analyse de l'œuvre de Bacon par l'écrivain... comment s'appelle-t-il ? Perret, qui est l'ancien directeur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, où il retrouve dans l'œuvre de Bacon cette association des deux. Avec, dans de très nombreux grands tableaux, Bacon commence par structurer son image. Vous avez quelques lignes verticales ou courbes qui définissent un espace. Et à l'intérieur de cet espace, qui n'est pas un espace contraignant non plus, parce que certains le ressentent comme oppressant, comme un encagement, moi je le vois plutôt comme quelque chose qui vient créer le lieu de la figure, eh bien, au milieu de cet espace qu'il a structuré, apparaît la figure. Enfin, il vient surgir la figure. Et la figure qui est peinte de manière totalement différente. L'espace autour, ce sont des aplats et des lignes. C'est de la géométrie, c'est équilibré, c'est immobile. Et puis, la figure qui est au centre est toujours une figure en mouvement. Non seulement, parfois, une figure qui bouge, mais très fréquemment, une figure qui ne bouge pas, mais qui est elle-même animée par la touche qui est en interne. Il y a un jeu très fort dans l'œuvre de Bacon entre ce qui est de l'ordre de la surface et de l'immobile et ce qui est de l'ordre du mobile et de la peinture gestuelle en matière et qui constitue l'intérieur de la figure. Et l'auteur que je vous citais tout à l'heure voit dans cette espèce de structure une dimension apollinienne et dans cette espèce de manière de peindre la figure, la partie dionysiaque animée par l'instinct avec ce mouvement et ses recouvrements et cette indistinction aussi. Et il y a peut-être de ça effectivement chez Bacon.
Mais Nietzsche dit dans l'Innocence de tragédie aussi que l'art, enfin il ne le dit pas comme ça, comme je vais le dire bêtement maintenant, mais que l'art est en soi apollinien parce que l'art organise le désordre. Une œuvre d'art est forcément organisée, une œuvre d'art est forcément, il y a une verticalité dans l'œuvre d'art et le dionysiaque est toujours horizontal, enfin il y a quand même ce côté-là. Hein.
L'art qui organise le désordre, c'est quelque chose que certains auteurs ont mis en lien avec la manière de travailler de Bacon très clairement et très précisément dans son atelier. Vous avez une reconstitution de l'atelier de Bacon qui est à la fin de l'exposition, qu'il faut imaginer, c'est une chose absolument incroyable. C'est une espèce de grotte couverte remplie de monceaux de tubes vaguement ouverts, écrasés, de photos, de lambeaux, de choses diverses et variées. C'est un atelier extrêmement sombre, c'est une espèce de caverne de laquelle surgissent finalement les tableaux et il vient comme mettre de l'ordre là-dedans. Il y a véritablement quelque chose de cet ordre-là chez Bacon.
On n'a pas encore parlé parce qu'on a cité les théoriciens, les prosateurs, etc. Mais T.S. Eliot, est un très grand poète. Il y a quand même beaucoup de poésie. Vous n'avez pas ressenti cette poésie, Guillaume, dans l'œuvre de Bacon? Il y a quelque chose de sombrement poétique, hein, très poétique, moi j'ai trouvé. Hein.
Oui, alors je connais mal l'œuvre de T.S. Eliot pour être beaucoup plus... pour répondre à votre question.
Non, mais l'œuvre...
L'œuvre poétique... Elle-même.
De Bacon,
oui.
Très poétique. Oui. Très poétique, vous êtes d'accord avec nous, Stéphane?
Faudrait s'entendre sur les mots, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par poétique?
Poétique, ça veut dire qui vous ouvre à la poésie, qui vous ouvre à la métaphore, qui vous dit que vous voyez quelque part dans les tableaux, vous comprenez ce que les tableaux veulent vous dire, vous interpellent, etc.
Alors, je ne suis pas sûr que l'on comprenne ce que les tableaux veulent nous dire, mais ce qui est absolument certain, c'est que ça fait appel très clairement aux émotions et que ça cause des réactions et ça appelle l'interprétation, ça appelle les associations. Ce sont des œuvres en face desquelles on peut difficilement rester neutre et à distance. Ça nous implique. Moi, je suis actuellement en pleine implication et en train de générer du sens et des images et des relations dans les choses que je vois. Quand on voit un triptyque de Bacon, on a spontanément envie de mettre en lien les trois parties de l'œuvre. Ouais. Et là, il y a tout un travail que notre imaginaire et notre psychologie, notre inconscient contribuent à fournir.
Oui, voilà, la poésie, c'est une mise en musique de langage. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est vraiment.
Alors, c'est quelque chose qui nous rend poète.
Absolument, qui nous rend poète aussi. Bacon, dans toutes lettres, c'est au centre Georges Pompidou jusqu'au 20 janvier. Il faut y aller. Alors, je viens de découvrir que les billets se vendent exclusivement en ligne. Je trouve ça un peu bizarre pour les gens âgés qui n'ont pas l'ordinateur. Bon, en tout cas, sachez que c'est une exposition à voir absolument. C'est une exposition qui fait réfléchir, notamment sur le 20e siècle, sur la violence de la vie, sur le sens de la vie, sur la proximité de la mort, sur notre rapport au corps, etc., etc. Ça fait réfléchir et puis c'est beau. C'est vraiment beau, d'une beauté qui n'est pas une beauté banale. À demain.